matin de France Culture, Guillaume Herner.
Rien à voir avec ce qui précède, sommes-nous à l'ère des post-truth politics, de la politique au-delà de la vérité, sont deux articles du quotidien londonien The Guardian et de l'hebdomadaire anglais The Economist qui ont fait grand bruit et ont lancé ce débat, deux articles qui vont vous être résumés par mon camarade Xavier Delaporte. Bonjour Xavier.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Deux articles qui, en réalité, pensent avant tout à un homme que l'on entend beaucoup en ce moment, Donald Trump.
In many respects, you know, they honor President Obama.
En fait, de bien des façons, Daesh honore Obama. Daesh honore le président Obama. Il a fondé Daesh. C'est le fondateur de Daesh, ok? C'est le fondateur. Il a fondé Daesh. Et je dirais que la cofondatrice, c'est Hillary Clinton, la pourrie. La cofondatrice. Hillary Clinton, la pourrie.
Bonjour Gérald Broder.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie, vous êtes beaucoup intéressé aux croyances, aux mensonges et aux raisons pour lesquelles les individus croient en un mensonge. Et effectivement, Donald Trump, mais il n'est pas le seul, est en train de faire changer les règles de la communication politique et de la médiatisation du discours politique.
Donald Trump est un menteur pathologique et les journalistes n'ont pour la plupart aucune idée sur la façon de le gérer. Les informations télé en particulier ont besoin de nouvelles règles sur la façon de couvrir un menteur pathologique en course pour la présidence. Par exemple, la semaine dernière, pendant la soirée électorale, toutes les chaînes info ont diffusé l'intégralité des 40 minutes de discours de victoire de Trump. Et il était bourré de mensonges, du début à la fin. Et les chaînes info n'ont ensuite consacré aucun instant à l'analyse ou la dénonciation de ces mensonges que venaient d'entendre leurs téléspectateurs. Donald Trump a pu mentir en direct à la télévision face à un public énorme.
Votre réaction, Gérald Broder ?
Bah écoutez, c'est bien qu'on commence par Donald Trump, parce qu'effectivement, je pense que c'est un peu le symptôme purulent de la situation politique actuelle. C'en est presque la garde avancée, en quelque sorte. On pourrait craindre que sa présence, la façon dont il parle dans l'espace public, soit un signe avant-coureur de ce que va devenir la politique dans les prochaines années. Je l'espère pas, évidemment. C'est pour ça qu'on y réfléchit aujourd'hui. Mais tout à la fois, c'est un symptôme par l'outrance de son discours, par l'usage du mensonge, dont on voit qu'il ne lui fait sans doute pas peur, par ne pas croire un instant qu'il croit à tout ce qu'il dit. Il y a quelque chose donc de très insincère et de très stratégique dans ses déclarations. Mais d'un autre côté, il faut pas oublier aussi, c'est un autre élément de ce symptôme virulent, qu'il ait été élu en quelque sorte démocratiquement par les primaires républicaines, des primaires où il n'y a jamais eu autant de candidats, n'est-ce pas ? Et que, troisième point, eh bien nous ne cessons de parler de lui, y compris, voyez, pour introduire une émission en France Culture.
Xavier Delaporte, on parle de ce Donald Trump principalement pour évoquer la notion de post-truth politics, la politique de l'après-vérité. Expliquez-nous en quoi cette notion consiste.
Oui, c'est la formule employée par l'hebdomadaire britannique The Economist, qui en a fait sa couverture la semaine dernière. Une formule qui rappelle le très long papier publié fin août par la directrice du quotidien britannique The Guardian, qu'on avait évoqué ici même, qui parlait, lui, de la disruption de la vérité. Et ce qui est étonnant, c'est le point auquel les deux argumentaires sont parfaitement convergents. Le constat de départ, donc, c'est que la vérité n'importe plus dans le débat public, que ce soit Donald Trump, on vient d'en parler, mais que ce soit aussi les anti-Brexit en Angleterre qui ont fait craindre des hordes de réfugiés ou ont expliqué qu'être dans l'Union européenne coûtait chaque semaine 350 millions de livres à l'Angleterre qui seraient reversés automatiquement à la sécurité sociale en cas de sortie, que ce soit les membres du gouvernement polonais qui affirment que leur ancien premier ministre mort dans un accident d'avion a été tué par les Russes, ou Vladimir Poutine qui dit à la télévision qu'il n'y a pas de soldats russes en Ukraine alors même que tout le monde en a la preuve. Ce sont là donc autant de signes pour les deux journaux que nous sommes entrés dans un monde où les faits importent peu. Alors évidemment que les politiques mentent, ça n'est pas nouveau, que le son souviennent du communisme soviétique, de Ronald Reagan finançant les contrats au Nicaragua ou des soi-disant armes de destruction massive ayant justifié l'intervention américaine en Irak. Les dictateurs et les leaders démocrates voulant dissimuler leur incompétence ont toujours falsifié la vérité. Mais quelque chose a changé selon les deux journaux. Ce n'est plus simplement qu'on falsifie la vérité ou qu'on la conteste, c'est qu'elle n'a plus d'importance. Auparavant, le but du mensonge était de créer une fausse vision du monde, mais une vision qui avait une forme de cohérence. Les mensonges de gens comme Trump ont, selon les deux journaux, un autre but. Ils ne visent pas à convaincre les élites en lesquelles les électeurs n'ont de toute façon pas confiance. Ils cherchent juste à renforcer les préjugés de ces mêmes électeurs. Alors, comment cela est-il devenu possible? The Economist rappelle déjà que du point de vue cognitif, si vous avez travaillé sur cette question, Gérald Bronner, des études sérieuses menées notamment par le prix Nobel de psychologie Daniel Kahneman ont montré que l'être humain n'avait pas une appétence particulière pour la vérité et que parfois même des faits venant contredire une croyance provoquent mécaniquement un renforcement de cette croyance, c'est ce qu'on appelle l'effet retour de flamme. Mais ce sont surtout deux phénomènes qui ont permis cette situation. Tout d'abord, la perte de confiance dans les institutions qui se traduit par un goût pour des hommes et des femmes politiques qui, soi-disant, disent les choses comme elles sont et qui affichent le plus grand mépris pour toute expertise. Mais ce mépris lui-même n'est pas venu de nulle part. Il a été, dans certains cas, activé par ces politiques eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est intéressant de revenir à l'origine du terme de politique post-vérité ou au-delà de la vérité. Il a été forgé par un blogueur américain spécialiste des questions environnementales qui a montré comment les républicains, affolés par le coup de la lutte contre les émissions de CO2, avaient sciemment décidé de remettre en cause toutes les certitudes avancées par les sciences du climat contre la preuve scientifique, contre l'expertise. Et cette stratégie politique a porté ses fruits sur le climat, mais elle s'est étendue à presque tous les champs de la vie publique. La parole du quidam aujourd'hui vaut celle de l'expert. Alors, la seconde cause identifiée, c'est l'évolution des médias eux-mêmes. Le Guardian insiste plus particulièrement là-dessus. La fragmentation des sources d'information a créé un monde atomisé, où les mensonges et les rumeurs se répandent à une vitesse inédite. Ils se partagent dans des réseaux sociaux dont les membres ont tendance à croire plus leurs amis que les médias traditionnels, et les grands acteurs du web, via par exemple la personnalisation des recherches sur Google ou alors la sélection algorithmique des informations qui nous arrivent via Facebook, ont tendance à enfermer les internautes dans ce que Elie Pariser a appelé des bulles informationnelles qui les confortent dans leurs opinions. Et les nombreux sites de fact-checking, c'est-à-dire les sites qui se concentrent sur la vérification de la parole politique, qui sont nés depuis quelques années, n'y changent absolument rien. Alors évidemment, la question que se pose The Economist, c'est que faire? Et l'hebdomadaire d'inviter les politiques à adopter un langage de la réfutation, à être plus humble aussi et à prendre acte des erreurs passées. Il faut aussi profiter des institutions qui, dans les démocraties, aident à établir la vérité, dit The Economist, renforcer l'indépendance de la justice, redonner du poids aux institutions qui servent à informer la décision politique, en particulier les institutions scientifiques. Alors la crainte de The Economist, elle rejoint la vôtre, Gérald Bronner, est que si Donald Trump l'emporte en novembre, on entre définitivement dans ce monde de la post-vérité. S'il perd, cela aurait été qu'un avertissement, mais demeurera de toute façon un souci majeur. D'autres pays, comme la Turquie ou la Russie, je cite The Economist pour conclure, pour leur peuple, dit-il, la nouveauté de la post-vérité pourrait servir au retour de l'oppression ancienne mode.
Merci beaucoup Xavier Delaporte de nous avoir donc résumé ces articles qui font polémique, ces articles qui n'expliquent pas que les politiques sont des menteurs, parce que ça n'est pas nouveau, cela a été théorisé depuis longtemps, mais que nous sommes finalement de plus en plus impuissants contre ces mensonges. Et tout d'abord, Gérald Bronner, qu'est-ce qui, dans la cognition, dans le fait de savoir, de penser, peut conduire des individus à adhérer à des idées fausses, comme par exemple le fait que Hillary Clinton et Barack Obama soient des fondateurs de l'État islamique, ce qui n'a pas été dit par Donald Trump, comme on l'a entendu de manière figurée, c'est au sens littéral, il a été interrogé là-dessus et il a répondu qu'il employait cette expression au sens propre. Hillary Clinton et Barack Obama sont les deux fondateurs d'ISIS.
Bah oui, bah d'abord, le mécanisme universel et très ancien de la croyance, et nous sommes tous des croyants de ce point de vue, nous avons des représentations du monde, c'est que nous cherchons à confirmer ces représentations du monde plutôt qu'à les infirmer. Et tout discours qui va venir flatter ces représentations déjà préétablies dans notre esprit va nous paraître, disons, plus intéressant et plus vrai a priori qu'un discours contradictoire. Nous n'aimons pas tester, si vous voulez, cela. Et aujourd'hui, tout est organisé dans le monde de l'information. Je dis pas organisé par, pour le coup, par des individus qui tireraient les ficelles, mais par une logique de marché, hein, c'est-à-dire une logique aveugle, acéphale, en quelque sorte. Tout est organisé pour nous permettre d'avoir accès plus facilement à des informations qui vont dans le sens de nos représentations préalables.
Comment cela ?
Eh bien, par exemple, si vous utilisez un moteur de recherche et que vous pensez que Daesh est une création des États-Unis, eh bien vous vous tapez Daesh, création des États-Unis, et vous tomberez sur une kyrielle de sites très argumentés. Il ne faut pas sous-estimer la puissance des argumentations, par exemple des complotistes. Eh bien, vous tomberez sur des sites qui vont essayer d'argumenter dans ce sens, qui vont illustrer cela. Et vous serez conforté. C'est ce que j'appelle un peu le millefeuille argumentatif, c'est-à-dire des dizaines d'arguments, plus ou moins fragiles les uns les autres, mais qui donnent à celui qui les lit l'impression que tout ne peut pas être faux. Eh bien, évidemment, auparavant, ce type d'argumentaire était confiné dans des espaces de radicalité. Il ne pouvait pas s'aimer dans l'espace public. Et aujourd'hui, bah c'est tout l'inverse. Il y a une porosité entre, je dirais, les espaces de radicalité et l'espace public. Bah c'est là-dessus, c'est sur cette porosité que peuvent surfer allègrement des gens comme Donald Trump.
Alors c'est un vrai paradoxe parce que lorsqu'Internet a été inventé, lorsqu'on a commencé à utiliser Internet, on disait, Gérald Bronner, que finalement, avec cet outil, le mensonge n'allait plus être possible parce que dès que quelqu'un mentirait, bah, il serait démenti sur les réseaux sociaux, on pourrait faire des recherches. Et ça n'est évidemment pas cela qui s'est produit.
C'est une très bonne remarque, tout à fait, que je mentionnais déjà dans mon livre « La démocratie des crédules », ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de la transparence. Alors c'est intéressant parce que ce paradoxe de la transparence que je vais expliquer rapidement, il n'est pas du tout contradictoire avec ce qu'on vient de dire. C'est quoi le paradoxe de la transparence? C'est qu'en effet, la diffusion d'informations qui étaient auparavant privées, qui deviennent public crée une sorte de transparence. Par exemple, quel est le patrimoine des hommes politiques? Comment est-ce qu'on a dépensé cet argent, par exemple, pour acheter du papier toilette dans tel ministère, etc., etc. C'est toute une série de lois qui ont été promulguées aux États-Unis, en Angleterre, dans d'autres pays, et en France aussi.
Ça, c'est plutôt bien.
Ah, tout à fait. Sauf que cette transparence, évidemment, elle permet de rendre le mensonge beaucoup plus difficile, en tout cas, l'impunité du mensonge beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui difficile. Regardez l'exemple que vous avez donné avec M. Ciotti. Non pas que ça soit un mensonge, mais il y a un paradoxe, évidemment, à donner sans cesse des injonctions à rétablir le service militaire et ne pas l'avoir fait lui-même. C'est une ironie que tout le monde peut comprendre, évidemment, et qu'il le dessert. Eh bien, vous voyez, ce genre de choses est immédiatement mise à jour. Si un candidat vous dit « je suis un candidat de la vérité », vous allez avoir des millions d'internautes qui vont aller chercher tous les mensonges de ce candidat. Alors, le paradoxe, pourquoi c'est un paradoxe? Eh bien, parce que plus il est difficile de mentir dans l'espace public, plus les mensonges sont éventés, plus on a l'impression qu'on nous ment. Vous voyez. Mais le deuxième point sur lequel, qui constitue finalement l'objet de notre conversation, c'est qu'on pourrait croire que ce paradoxe de l'intransparence constitue une intimidation. Car aujourd'hui, si le politique n'a pas compris que s'il ment de façon évidente, dans les prochains jours, son mensonge va être éventé, il n'a pas compris grand-chose à la communication. Donc je pense que maintenant c'est intégré. Au départ, il y avait des maladresses, maintenant ils le savent. Mais tout se passe comme si, en fait, il y avait plus d'avantages, et Donald Trump en est une belle représentation, à mentir pour... Pourquoi ? Pour tirer des bénéfices à court terme en acceptant de payer à moyen et long terme les coûts du mensonge.
Alors l'autre exemple de mensonge qu'a cité Xavier Delaporte et qui est analysé dans les articles du Guardian et The Economist, c'est la campagne sur le Brexit. Non pas que le Brexit soit en soi une mauvaise décision, ça c'est au peuple qu'il appartient de trancher. En revanche, la campagne du Brexit, elle s'est fondée notamment sur un argument, sur des sommes d'argent qui seraient économisées en cas de sortie de l'Union européenne. Et là, en revanche, le mensonge est aujourd'hui avéré. Écoutez.
Êtes-vous un gros menteur?
Je ne souhaite pas discuter de mon poids. Ce dont je veux parler, ce sont les immenses sommes d'argent que nous envoyons à Bruxelles. L'an dernier, nous avons envoyé 10,5 milliards de pounds et nous n'allons jamais les revoir. Une partie va dans l'industrie tabatière en Grèce, une partie va financer des corridas en Espagne. Ce n'est pas, à mon avis, une bonne façon d'utiliser l'argent des contribuables anglais.
Donc on a envoyé dans le débat public un certain nombre de sommes, 10 milliards, 350 millions, l'idée étant qu'un Brexit permettrait d'économiser ces sommes, comme vient de le dire Boris Johnson, et écoutez le rétro-pédalage du leader Nigel Farage de UKIP juste après le vote.
Les 350 millions que nous n'allons plus envoyer chaque semaine à l'Union européenne, pouvez-vous garantir qu'ils vont maintenant financer la sécurité sociale ?
Non, je ne peux pas le garantir et je ne l'ai jamais promis.
17 millions de personnes ont voté pour le Brexit. Je ne sais pas combien d'entre eux ont voté en fonction de cette promesse, mais c'était un élément central de votre propagande. Et maintenant, vous nous dites que c'était une erreur ?
Nous allons récupérer 10 milliards par an et nous pourrons utiliser comme nous l'entendrons cette somme. Ça pourrait être sur le système de santé, l'éducation, peu importe.
Mais vous ne pouvez garantir que cet argent, comme promis, ira au système de santé ?
Moi, je n'étais pas vraiment dans la campagne officielle. J'ai fait les choses de mon côté.
Mais il y a d'autres promesses dont les Anglais vont découvrir ce matin qu'elles ne seront pas tenues.
Laissez-moi vous dire ce qu'ils vont découvrir. Que nous sommes de nouveau un pays normal.
Je n'étais pas dans la campagne officielle, j'avais macramé. Gérald Bronner, on voit effectivement ce type de procédés qui sont quand même hallucinants, puisqu'on a un discours qui a été martelé, qui était au cœur d'une campagne de communication, et deux semaines après le vote, eh bien voilà, on dit finalement que cette somme, on ne sait pas d'où elle sort.
Oui, bah ça illustre bien en quelque sorte le compte à rebours du mensonge. C'est-à-dire qu'on tire les marrons du feu, si je puis dire, à court terme, et puis à moyen et long terme, on va accepter de payer le coût, mais c'est trop tard. En l'occurrence, quand il y a un vote, en l'occurrence, on voit bien le point de départ, évidemment, de l'intérêt. Ici, là, ce qui est quand même intéressant, c'est que l'argument est fondé sur ce que j'appelle la démagogie cognitive, c'est-à-dire qu'on va, flatter certaines pentes peu honorables de l'esprit en exhibant des coûts européens, sans jamais parler d'ailleurs des bénéfices. Et vous savez que notre cerveau est naturellement construit en quelque sorte pour avoir une attention plus forte pour les coûts que pour les bénéfices. On dit généralement que pour compenser un euro de coût, il faut à peu près 2,5 euros de bénéfices. Donc vous voyez comment sur ce marché dérégulé de l'information, une proposition intellectuelle parfaitement démagogique va devenir beaucoup plus virale qu'un démenti beaucoup plus rationnel.
Xavier Delaporte, c'est pas une pierre dans votre jardin. Votre jardin, c'est le numérique, puisque un mensonge aussi gros que celui-ci n'a pas été démenti, alors qu'on aurait pu imaginer que le fact-checking était capable, la vérification des faits était capable de dire que 350 millions de pounds ne seraient pas économisés par mois en cas de sortie de l'UE.
Et j'ai l'impression que dans ce que énonce Gérald Bronner comme étant un paradoxe, il y a effectivement le fait très étonnant que c'est extrêmement démenti. C'est extrêmement démenti partout. Et le fait qu'il y ait aujourd'hui aux États-Unis, je crois qu'il y a une centaine de sites qui consacrent entièrement leur activité au fact-checking, donc à la vérification de la parole politique. Donc il y a beaucoup plus de démentis qu'il n'y avait auparavant. C'est ça qui est absolument étonnant. Mais ce qu'on peut se poser comme question, et en tout cas c'est la question que je me pose, c'est que Gérald Bronner énumère effectivement les effets à court terme dont on peut comprendre qu'ils sont bénéfiques aux hommes politiques. La question qu'on peut se poser, c'est celle des effets à long terme. C'est-à-dire quand quelqu'un comme Rodolphe Giuliani, par exemple, ancien maire de New York, pour appuyer la campagne républicaine va diriger les électeurs vers des sites complotistes pour leur dire voilà, là on peut se demander effectivement au bout d'un moment qu'est-ce que ça produit sur la parole politique en elle-même.
Gérald Bronner.
Oui, ben d'abord le problème de ces sites de fact-checking sont très utiles, notamment pour les indécis, ceux qui ne savent pas. Ben ces sites ne sont pas de nature, les arguments sur ces sites ne sont pas de nature à faire changer d'avis ceux qui sont dans la théorie du complot pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure. C'est un peu le travail de Sisyphe. Cependant, sont quand même des éléments totalement essentiels pour ceux qui n'ont pas encore de point de vue, bien entendu. Mais j'ai mesuré d'un mot, si vous voulez, le nombre, par exemple, d'arguments en faveur de la théorie du complot après Charlie Hebdo, n'est-ce pas? Et puis j'ai regardé, c'est intéressant, parce que les journaux ont décidé là de se battre contre la théorie du complot. Eh bien, il y avait de toute façon, alors qu'il y avait beaucoup de journaux impliqués, l'Express, etc., et beaucoup de sites, eh bien, il y avait trois fois plus d'arguments en faveur de la théorie du complot qu'en défaveur de la théorie du complot. Donc, même dans ce cas de figure, le bras de fer ne va pas dans le sens que l'on pourrait imaginer.